Petite précision, la musique que vous entendez vient du Kenya et non pas du Mozambique, d'où vient en l'occurrence Julia. Mais c'est une tradition musicale qui doit correspondre à la vie de Julia, puisqu'on nous dit que c'est dans cette partie de l'Afrique, donc l'Afrique orientale, eh bien, il y a une façon tout à fait fascinante dans la manière de laquelle la musique et la musique sont mélangées dans les pratiques indigènes, entre autres de sorcellerie. La musique prend un pouvoir très important de la médecine et la médecine devient complètement associée par le son des tambours, par exemple, aux soins, entre autres avec des magnifiques mélodies, mélopées, qui servent dans les soins. Alors, celles que vous entendez en ce moment, ce sont les sorcières de Taïta qui prescrivent comme pouvoir de soin les tam-tams pour aider une femme malade et à retrouver ses mouvements. Alors, après que les patientes soient possédées par l'esprit du tambour pour plusieurs heures, quelquefois pour plusieurs jours, eh bien, la maladie est extirpée de leur corps. Voilà, et c'est ce que vous entendez, et vous entendrez d'autres musiques, entre autres des musiques d'initiation à différents chapitres de la vie de ces femmes. J'ai rencontré Julia par hasard. Mon ami Lamanga, mozambicain d'un village Ronga, en Afrique orientale, sur le terrain où je travaillais, se présenta à l'entrée de ma hutte et m'annonça que nous partions faire une promenade. C'est Martha Binford qui a obtenu son degré en philosophie en anthropologie à l'Université du Michigan et qui nous raconte l'histoire de Julia lors d'une étude sur le terrain de 2 ans au Mozambique. Après 1 heure de marche sur des sentiers étroits, à trébucher sur les racines et les branches, je voulus m'arrêter parce que j'avais malheureusement oublié mon carnet de notes à la maison. La manga, en me parlant sans arrêt, était en train de me fournir toute une documentation chère au cœur des anthropologues, mais je n'aurais de toute façon pas pu écrire car la nature semblait comploter contre moi. J'appréciais beaucoup les visites de la manga et les tours dans lesquels il me conduisait tel un tourbillon, mais je ne savais jamais à l'avance à quoi m'attendre. Tout à coup, nous émergeâmes de la végétation touffue dans une clairière où 2 chemins conduisaient à une ferme d'assez grande dimension, bien tenue, composée de quelques huttes. 3 d'entre elles étaient tournées vers l'est, comme d'habitude, mais la 4e, érigée à part, regardait l'ouest. La manga hésita un instant, puis prit le chemin public, celui de l'est, et se dirigea lentement vers la ferme. J'observais la manga avec curiosité. Il ne souffrait ordinairement d'aucune gêne et pénétrait directement dans les maisons à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Cette fois-ci, il s'immobilisa sur le chemin devant l'entrée et prononça une salutation, demandant la permission d'entrer. Une femme sortit lentement d'une des huttes et nous regarda, les mains sur les hanches. Je fus immédiatement frappée par la dignité de sa tenue et par le sentiment de puissance qui émanait d'elle. Elle donnait l'impression de dominer totalement la situation. Elle ne manifestait pas le moins du monde l'empressement obséquieux des autres pour me saluer, une attitude que j'avais déjà apprise à décrypter et qui me semblait cacher la crainte et la méfiance que j'inspirais, moi, la seule blanche, dans ce village d'une tribu de presque 2000 habitants. Elle nous examinait très attentivement. Mes dieux n'ont pas de haine pour les blancs. Entrez. Riant, elle s'avança lentement pour nous accueillir. Son mari sortit d'une des autres huttes et se tient un peu en retrait, tandis qu'elle commençait l'échange rituel des nouvelles. Cela aussi est très inhabituel, parce que ce sont toujours les hommes qui procèdent à l'échange des nouvelles, pendant que leur petit monde féminin se tient respectueusement en arrière et écoute. Elle me demanda comment j'allais. Je répondis, « Bien, mère, merci. » Elle hocha du chef et récita sa part de la salutation rituelle. « Je vais bien, mon mari va bien, » dit-elle avec un geste de la main pour indiquer qui elle entendait. « Et mes enfants vont bien. » Elle fit une pause pour étudier mon visage. Mes chèvres vont bien, mes poulets vont bien, mes cochons vont bien et mes bœufs vont bien. » Elle me regardait attentivement. Et lorsque je me mis à sourire, elle rit de plaisir. J'avais compris ce qu'elle était en train de dire et savais qu'il y avait quelque chose de particulier à détailler ainsi la santé de ces animaux. Elle me testait. J'avais entendu dire que celle-ci est différente. Ce n'est pas une femme d'admission. Tout ce qu'elles savent dire, c'est « bonjour, bonsoir ». Elles ne connaissent pas notre manière de parler. Elle avait pris une voix de fausset et fait des fautes de grammaire pour imiter les missionnaires avec un ton venimeux. Les autres villageois semblaient pressés de me convaincre qu'ils étaient bons chrétiens ou alors cherchaient à m'éviter s'ils étaient païens. J'avais fini par désespérer de les persuader que mon désir était d'apprendre à connaître toutes leurs coutumes et pas seulement celles qu'ils avaient empruntées aux Blancs. L'attitude de Julia représentait dès lors pour moi un changement bienvenu. J'étais aussi très reconnaissante pour les heures difficiles passées à étudier la langue Ryonga avec mon assistant Valente. Après les présentations avec Rolando, le mari de Julia, la manga demanda si nous pouvions revenir plus tard, quand Julia jouerait de ses tambours et que ses dieux sortiraient, c'est-à-dire la posséderaient. Je réalisais alors qui elle était. C'était Julia, la fameuse femme de vin, la guérisseuse dont j'avais entendu les tambours retentir dans la brousse pratiquement chaque soir depuis mon arrivée dans le village. Je la regardais de plus en plus près et compris pourquoi j'avais deviné tant de puissance en elle. Pour une Ryonga, elle avait en effet une assurance fantastique, avec sa pose de tête légèrement rejetée en arrière, nous toisant de son regard. Elle avait avancé un pied de telle sorte que sa hanche faisait saillie et croisé ses mains sur sa poitrine. Aucune femme Ryonga n'adoptait jamais une telle pose, délibérément arrogante. J'étais subjuguée. Elle était habillée comme les autres femmes du village. Une blouse à manches courtes, une longue pièce de tissu lui entourait la taille et lui tombait sur les chevilles. Et un mouchoir sombre était noué autour de la tête de manière à cacher les cheveux. Mais ses bijoux n'étaient pas communs. Elle portait un bracelet de perles noires et rouges au poignet gauche, des anneaux épais d'un pouce faits de mêmes perles au deuxième et troisième doigt de la main gauche. Cette nuit est une bonne nuit, une nuit spéciale, parce que mes dieux m'ont demandé de jouer du tambour. J'en ai joué un peu hier par habitude pour m'exercer. Je dois jouer même s'ils n'ont pas envie de venir, mais ce soir, ils le veulent. Elle montra la hutte qui se trouvait derrière nous, celle dont l'accès s'ouvrait vers l'ouest. Je vais dans la maison des dieux chaque matin. J'y garde les médicaments et les eaux. Je jette les eaux pour savoir si le prochain soir sera bon pour les repas, pour les dieux ou pas. La manga en bégayait d'excitation. Qu'est-ce que Martha devrait apporter comme cadeau pour les dieux ? Julia le regarda avec un brin de mépris. La manga était un chrétien nominal qui ne fréquentait plus l'église depuis des années, mais elle avait toujours plaisir à le taquiner. Tu as trop été à l'église. Tu ne devrais pas demander, tu devrais savoir. Comment puis-je dire ce que les dieux veulent ? Mais ce doit être métallique, des pièces de monnaie, des épingles, des aiguilles. Elle demanda à son mari de nous raccompagner par le chemin de l'ouest. Il marcha avec nous, mais en retrait, jusqu'à ce que nous soyons arrivés au chemin principal. C'était un homme agréable d'âge moyen, non dépourvu de dignité, mais il laissait le pas à Julia à cause de la puissance de ses divinités. Nous nous serrâmes la main à la croisée des chemins et la manga, sur le trajet du retour, me raconta des bribes de l'histoire de Julia et m'expliqua le sens des chemins de l'est et de l'ouest, ainsi que des perles rouges et noires. Tout le monde avait été surpris dans le village lorsque Julia avait pris l'état de devin, parce qu'elle avait été jusque-là un membre fidèle de l'église de la mission suisse. Ses filles étaient mariées, son mari et deux de ses fils adultes avaient de bons emplois à Lourenço Marques, ainsi que s'appelle la capitale depuis 1968 au Mozambique, et la famille était en pleine ascension sociale. La manga laissait entendre que Rolando, son mari, avait été fort ennuyé de voir sa femme retourner au paganisme, juste au moment où les choses allaient si bien pour sa famille. Néanmoins, 3 ans auparavant, Juliette est brusquement partie chez un devin pour y faire son apprentissage, revenant à Mitini, au village, moins d'un an après. Elle avait alors scellé plusieurs de ces passages qui menaient à sa ferme. Les maisonnées des chrétiens possèdent de nombreuses entrées, mais Julia avait bloqué tous les passages, sauf ceux traditionnels de l'Est et de l'Ouest, afin de protéger sa ferme de la magie ou de la sorcellerie des personnes qui auraient pu la jalouser à cause des pouvoirs qu'elle venait d'acquérir. Amanga expliquait que l'Est est associé aux vivants. Les chemins qui mènent dans les maisons viennent de l'Est et doivent être empruntés par tous les visiteurs, surtout s'ils n'appartiennent pas à la parenté. L'Ouest, lui, est associé aux morts. Les cadavres sont sortis de la ferme par le chemin de l'Ouest et seuls les membres de la famille et ceux qui sont au bénéfice d'une permission spéciale peuvent s'en servir régulièrement. Quiconque utiliserait l'entrée Ouest sans permission se verrait accusé de magie ou de sorcellerie. La manga continue à son explication. Il y a 3 catégories de dieux dans le panthéon Rianga. Les dieux ancestraux sont particuliers à chaque famille. Il se peut qu'ils châtient leurs parents en leur infligeant une maladie lorsqu'ils se sentent négligés ou pour mauvaise conduite. La couleur associée aux ancêtres est le blanc. On ne peut leur offrir des habits, du bétail ou du vin que blanc. Les Riongas insistent très fortement sur le fait que leur dieu ne tue jamais les gens, au contraire de 2 autres sortes de dieux. Ces derniers sont des dieux étrangers qui n'appartiennent, selon la croyance, aux tribus Nguni, les Zoulous et les Njao. Les dieux étrangers prennent possession des gens et les forcent à devenir devins ou à mourir en cas de refus. Je savais que ces 2 tribus avaient battu les Riongas à la guerre autrefois. Il semblait que leurs dieux continuaient à avoir le dessus dans les temps présents. Et la couleur noire est associée aux dieux, justement, des vainqueurs, des Ngunis, qui sont des dieux mâles. Et la couleur rouge est associée aux dieux des Njaos, qui sont féminins et moins puissants. C'était l'explication des perles rouges et noires de Julia. La plupart des devins ont 2 dieux qui prennent possession d'eux. Les couleurs de leurs bijoux permettent aux gens des villages de comprendre de quel dieu ils dépendent. Les gens ont diverses raisons de consulter les devins. Certains désirent connaître l'avenir, par exemple en prévision d'un projet ou d'un voyage. La majorité, cependant, a été victime de quelques malheurs et veut savoir pourquoi et comment y remédier. Beaucoup de ceux qui venaient consulter Julia étaient malades. Ces dieux prenaient possession d'elle et parlaient à travers elle dans un langage secret, révélant ainsi la cause de la maladie. Parfois, le dieu prescrivait aussi une cure et d'autres fois, il envoyait le patient chez un autre guérisseur pour les soins. Je pus revenir ce même soir à cause d'un impondérable qui se produisit dans la ferme où je logeais. Mais je pris rendez-vous avec pour une autre occasion. Un messager m'avertit quelques 10 jours plus tard. La manga qui se trouvait de nouveau chez moi, mon serviteur Carlos et un autre invité, m'accompagnèrent chez Julia à travers l'obscurité. Lorsque nous arrivâmes, la petite hutte circulaire était très encombrée et la lumière était si pâle qu'on n'y voyait rien du tout. On nous apporta des chaises et nous prîmes place juste à l'intérieur de la porte. Un bidon d'huile suspendu dans l'entrée supportait une lampe à pétrole à la mèche réglée très très bas. On pouvait voir les braises encore rougeoyantes d'un feu qui mourait derrière la poutre centrale et qui servait de montant. Une femme, qui devait être une des élèves de Julia, assise en face de la poutre, était en transe. Un autre élève, un homme, était assis à sa droite. Ils vivaient tous deux chez Julia. La manga me chuchota qu'ils étaient en transe ce soir-là afin de recevoir la purification. Angelica, la première élève citée plus haut, portait 4 colliers de coquillages autour de sa tête, à l'air libre. Elle était torse nue, un collier de perles lui passait sous la poitrine et derrière la nuque. Elle avait un fichu blanc sur les épaules tenu par un nœud lâche sous le menton. Elle était assise, les jambes croisées, les genoux relevés, les mains sur les genoux, un tissu rouge drapé sur les jambes. Une troisième pièce de tissu nouée autour de sa taille lui tenait lieu apparemment d'habillement normal. Tout le temps qu'Angelica fut possédée, Shanda, le second élève, fut attentif à renouer le fichu blanc ou à lui essuyer le sourcil avec l'une de ses pointes. Je remarquai une pioche miniature par terre, près de la main droite d'Angelica. Celle-ci frissonnait, tremblait. De temps en temps, elle sursautait et se secouait convulsivement. Le roulement des tambours était si fort, les gens psalmodiaient au rythme des tambours tandis qu'elle continuait à frissonner. Parfois, ses mains se tendaient toutes raides le long des genoux et elle était secouée de haut en bas. Elle émettait d'horribles gémissements, comme quelqu'un qu'on aurait frappé du poing dans l'estomac. Sa tête roulait spasmodiquement, penchée sur une épaule, se fixait sur cette position, tandis que tout son corps grelottait et tremblait sous l'effet de la possession. Je pouvais distinguer Julia qui battait sur le gros tambour pendant que d'autres personnes faisaient résonner des instruments de métal semblables à des castagnettes. Angelica se saisit de la petite pioche et se mit à la secouer en rythme avec le tambour, un sourire sur le visage. Lorsqu'elle la reposa, la musique et les chants cessèrent immédiatement. Et elle commença à parler d'une petite voix de bébé. L'assistance rit au moment où quelqu'un me dit que son dieu avait peur des blancs et ne voulait pas rester. Les tambours se mirent à rouler et cette fois elle ramassa un couteau qu'elle brandit comme pour un combat. Quand elle le déposa, ce fut le silence et Julia se pencha vers elle et lui posa des questions. Pendant sa transe, Angelica avait deviné la cause d'une maladie et donné le détail de certaines mesures à prendre. Elle gémissait et grognait au moment où elle sortait de transe. Et on la salua en lui annonçant qu'elle avait, la divinité avait pris possession d'elle, car les devins ne se rappellent rien de ce qui survient pendant leur possession. Julia l'aida à ôter ses accessoires de cérémonie et Angelica se rhabilla normalement. Les gens se détendirent et nous échangeâmes des salutations. On rit et on discuta beaucoup en expliquant à Angelica ce qui s'était passé pendant qu'elle était en transe. Elle venait à peine de s'appuyer contre la poutre centrale, apparemment épuisée, quand Shanda, l'autre apprenti devin, commença à se secouer, à se contracter, à être déchiré par ses affreux gémissements gutturaux. Il fut possédé, mais sorti de transe relativement vite. La cérémonie dura encore très longtemps. Je dus revenir un autre jour pour pouvoir parler directement à Julia. Et elle me raconta ainsi son histoire. Ma mère était souvent malade avant ma naissance. Elle se rendit de nombreuses fois à l'hôpital, mais il ne put rien faire pour elle. Finalement, sa famille consulta un devin qui jeta les osselets. Ceux-ci indiquèrent qu'il lui fallait aller près de l'hôtel familial et rester. Elle concevrait un enfant et devrait lui donner le nom du dieu qui lui avait alors envoyé la maladie. Alors ma mère acheta des habits du dieu, habits de couleurs variées, et alla prier près de l'hôtel familial. Puis elle se trouva enceinte. Le temps de ma naissance arriva, mes parents retournèrent vers le devin, qui leur dit alors qu'on devait m'appeler Muzengele, parce que tel était le nom du dieu qui avait rendu ma mère malade. En grandissant, je tombais également malade, et on m'envoya à l'hôpital, mais on ne put m'y guérir. Alors mes parents consultèrent les osselets, et ceux-ci firent savoir qu'il fallait m'envoyer habiter chez ma grand-mère maternelle. Lorsque j'arrivais à l'entrée de sa ferme, avant même d'avoir eu l'occasion de dire un mot, j'étais déjà guérie. J'ai deux sortes de dieux. Le dieu féminin vient de la maison de ma mère. Le dieu masculin vient de chez mon père. Il me dit que son nom est Mala Bazimuke. Il est le dieu principal. C'est le dieu féminin, mais le dieu féminin s'appelle Nyank Wabe. Tout en écoutant ce que me racontait Julia, j'observais en même temps Angelica, son élève, qui, toute évidence, tirait elle-même une grande fierté du récit que me faisait Julia. De temps à autre, Angelica jetait un regard de mépris sur Valente, mon assistant, comme pour lui rappeler ce pouvoir traditionnel auquel lui, le chrétien, avait renoncé. Julia continue son histoire et elle me dit qu'elle n'avait commencé son apprentissage de devin que bien des années après son mariage et le décès de ses parents et grands-parents. Comme je savais que les dieux de la possession deviennent héréditaires lorsqu'ils se sont établis dans une famille, la référence à la mort des parents et des grands-parents ne m'étonna pas du tout. Julia devint l'héritière des dieux familiaux, lesquels, dans la pensée indigène, cherchent parmi les descendants de leurs hôtes morts le nouvel hôte capable de les accueillir. Le refus de devenir l'hôte des dieux pouvait mener à la mort. Cependant, la personne choisie ne devenait pas automatiquement un devin du simple fait qu'elle avait été désignée par les dieux. Elle avait à subir un apprentissage auprès d'un devin établi, et cela pendant une durée non définie, variant de quelques mois à plusieurs années. Julia dit encore qu'après la naissance de ses enfants, elle était tombée malade de nouveau et avait dû retourner à l'hôpital. Elle souffrait dans le bas du corps, à droite, mais on ne put pas la guérir. Elle passa beaucoup de temps à se faire soigner par les docteurs européens et des guérisseurs indigènes, sans succès. Elle se rendit plusieurs fois à l'hôpital jusqu'à ce que les docteurs de la mission suisse décident de tenter une intervention chirurgicale. Quand Julia arriva à l'hôpital pour l'opération, on la fit s'étendre pour une prise de sang au bras. Mais sa veine se dérobait, ce qu'elle interpréta comme un signe que les dieux n'aimaient pas la voir ici. Elle fit comprendre qu'elle ne voulait plus se faire opérer. Les docteurs européens, apparemment contrariés par sa réaction d'indigène superstitieuse, bien évidemment, l'enjoignirent de rentrer chez elle et de s'y faire soigner. Son état devint de plus en plus désespéré, et bien que son mari eût préféré se fier encore à la médecine européenne, il consentit finalement à consulter les osselets. Et ceux-ci révélèrent que la maladie était causée par les dieux, et le malheureux couple se mit en quête d'un devin. Le devin donna trois sortes de remèdes à Julia. Aussitôt qu'elle eut commencé à les prendre, les dieux sortirent, tant ils avaient été longtemps réprimés. Ils prirent possession d'elle et parlèrent par sa bouche. « Nous voulons que tu partes loin d'ici pour te faire traiter afin que nous puissions travailler. » On croit que les dieux de la possession ont été eux-mêmes devins et guérisseurs pendant leur vie et qu'ils cherchent des hôtes afin de pouvoir continuer leur œuvre après la mort. Julia n'aimait pas le devin qu'elle avait consulté en premier lieu et elle insista pour aller loin dans le nord afin de rencontrer un autre. Son mari et ses fils l'emmenèrent alors au nord chez le devin en question pour qu'elle puisse commencer son apprentissage et connaître les choses des dieux. Dès qu'elle s'y fut rendue, son dieu demanda à être traité le plus vite possible afin de pouvoir rentrer à la maison rapidement. Il y avait de cela 3 ans lorsque Julia me racontait cette histoire. Elle remarqua que le dieu était bizarre par sa maladie de vouloir que tout soit fait en vitesse. Depuis qu'elle avait été bien nourrie et bien traitée dans le nord, Julia n'avait plus jamais été sérieusement malade. Il pouvait lui arriver de se sentir peu bien, et si son mari était à la maison, il essayait toujours de la faire aller à l'hôpital européen. Mais son dieu se manifestait immédiatement en disant « Je n'aime pas les hôpitaux » et elle se rétablissait en quelques jours. Je repensais à ce que sa fille m'avait dit de la vie solitaire de Julia avant qu'elle devienne devin. Ses 2 fils n'étaient pas mariés, elle n'avait donc pas de belle-fille chez elle. Ils vivaient comme leur père en ville, là où ils travaillaient. Ils ne rentraient que de temps en temps pour des vacances ou un week-end. Et Julia avait vécu absolument seule chez elle, s'occupant des champs de leur propriété sans aucune aide. Son unique compagnie, elle la trouvait auprès des membres de l'église de la mission suisse qu'elle fréquentait à l'époque régulièrement. Elle allait parfois en ville rendre visite aux siens, mais elle y restait rarement longtemps à cause des travaux des champs. C'était une très belle femme d'âge moyen autour de la quarantaine, très intelligente, vive, qui avait dû trouver très difficile d'accepter une existence d'esclave et d'ennui. Maintenant, au contraire, sa maison était remplie de gens. Elle avait 2 élèves qui partageaient sa vie et l'aidaient aux travaux agricoles. Elle avait le jeune garçon pour aide qui gardait son bétail. Le bétail, en soi, est un signe de succès. Les devins se font payer par les patients et l'apprentissage coûte des sommes princières aux élèves. Alors, elle avait converti cette richesse en bétail, qui est encore le symbole le plus prestigieux de l'opulence chez les Ryongas. On venait sans cesse la consulter. Son existence était désormais comblée et elle avait atteint une importance que peu d'hommes pouvaient égaler. Phénomène inouï pour une femme Ryonga. Je demandais si je pouvais revenir de temps en temps et poser d'autres questions. Après réflexion, elle me donna son accord. « Je ne peux refuser de t'aider parce que tu es venu pour apprendre la vie des gens. Le pays t'a reçu et je n'ai pas le droit de refuser ma collaboration. Mais l'histoire des dieux est très difficile, tu sais. » Et tout à coup, elle se remit à parler pour m'expliquer avec un grand luxe de détails comment son mari avait été persuadé de la laisser devenir devin. Elle s'était rendue à la capitale pour voir sa famille. Elle venait à peine de terminer de préparer le dîner quand ses dieux virent qu'elle était pratiquement l'heure du retour de l'école pour ses filles. Je fus surprise parce que je ne savais pas que ses fillettes avaient aussi vécu à la ville. « Oui, me dit-elle avec impatience, elles étaient en ville et quand elles étaient enfants. Maintenant, elles sont mariées et elles y sont restées. » C'est très inhabituel que des filles non mariées ne vivent pas chez leur mère au village et l'aident aux corvées quotidiennes. Voilà qui jetait une lumière nouvelle sur le désir d'ascension sociale de Rolando. Il était en effet déterminé à dépasser les limites de la vie traditionnelle du village et c'était Julia qui avait dû encaisser le choc. Son ambition à lui l'avait réduite à rester seule, sans le soutien réconfortant de ses filles. Et les femmes du village me disaient souvent qu'une des rares consolations du mariage était d'avoir des filles pour partager leur fardeau et soulager un peu la solitude qui était leur sort ordinaire. Julia continua son histoire. Les dieux s'étaient manifestés et lui avaient paralysé les mains et les chevilles, ce qui l'avait forcé à garder le lit. Quand sa famille rentra à la maison, elle pouvait à peine respirer et encore moins parler. Quand ils la touchèrent, elle eut l'impression d'être un cadavre, comme si le sang avait cessé de couler. Un instant plus tard, ses divinités se mirent à parler à travers elle. « Nous voulons que vous envoyiez Julia très loin pour que nous puissions être traités. Si vous ne le faites pas, un jour vous la trouverez morte. » Et nous voulons que vous vous débrouilliez pour trouver tout l'argent nécessaire à payer le devin qui nous traitera. Nous n'avons pas envie de perdre beaucoup de temps là-bas pour notre apprentissage. » Puis, les dieux disparurent. Le mari et les filles de Julia étaient terrifiés sur le moment et ils l'encouragèrent à se plier aux exigences des dieux. Mais quelques jours plus tard, lorsqu'elle commença à se sentir mieux, son mari Rolando changea d'idée. Elle fit alors de nombreuses rechutes avec paralysie et convulsions. Mais son mari, une fois de plus, ne fit rien, bien qu'elle sentît que sa vie même était menacée. Finalement, c'est l'un de leurs fils, Raphaël, qui revint du nord où il travaillait. Il affirma que sa mère devait quitter l'église et chercher de l'aide auprès des devins. Et ainsi, la famille se décida à prévoir un voyage vers le nord. Rolando le mari, Raphaël le fils rassemblèrent la somme d'argent versée d'avance qui garantirait un prompt traitement. Raphaël prit les devants et se mit d'accord avec un devin pour que Julia puisse faire son apprentissage. Alors, Julia commença tout un apprentissage auprès de ce devin. Et finalement, le jour du rituel final arriva. Il vint beaucoup de monde chez le devin. Ils apportaient des tambours pour jouer à l'intention des dieux. Et la reconnaissance publique du pouvoir d'un devin est très importante. Sans cela, le devin serait accusé d'être un charlatan et ne trouverait pas de patient. Après l'examen, Julia allait être conduite dans la brousse de façon à ce qu'elle ne sût pas quelle épreuve on lui préparait. Les gens dans la maison prirent les vêtements des dieux, les habits de couleur spéciales dont les devins se revêtent, et en firent un baluchon. Ils enlevèrent l'anneau d'or de Julia et le donnèrent à un homme chargé de le cacher. Il le mit dans sa poche. L'anneau symbolisait le mariage de Julia avec les dieux et était désigné sous le nom de monnaie. Julia ôta le foulard de sa tête pour me montrer l'anneau d'or attaché à une boucle de cheveux sur son front et qu'on ne voyait normalement pas. On avait tué une chèvre pour la fête, on lui avait enlevé la vésicule biliaire et quelqu'un avait été chargé également de la cacher. Tous ces objets cachés représentaient autant de mises à l'épreuve pour les dieux de Julia. S'ils étaient authentiques, Julia retrouverait les objets sans peine. L'une des premières tâches des devins consiste à découvrir les choses cachées, soit des objets concrets, soit des secrets encore à l'avenir. On fit venir Julia. On lui administra des drogues de telle manière que ses dieux se manifestent. Ils prirent rapidement possession d'elle et elle tomba par terre. Ensuite, elle se releva et se mit à danser. Les gens criaient « Si tu es un vrai dieu, trouve la maison où les habits sont cachés. » Toujours sous l'effet de la possession, elle partit à leur recherche et trouva la maison et le baluchon d'habits. « Maintenant, trouve ta monnaie !» cria l'assistance en parlant de l'anneau d'argent. Et Julia dansa et chanta de nouveau. Ensuite, les dieux demandèrent aux gens de se taire. Elle s'assit sur le sol pour réfléchir. Elle se dirigea directement vers la personne qui avait l'anneau et s'assit en face de lui. « C'est toi qui as la monnaie. Mets-la ici, » dit-elle en tendant les mains devant lui, comme pour former une coupe. L'homme demanda où l'anneau était dissimulé et les dieux de Julia désignèrent la poche. Tout cela a mis fin aux épreuves. Elle avait réussi en beauté et l'on mangea et but jusque tard dans la nuit. Julia resta encore 3 jours au nord, finissant de prendre les remèdes destinés à ses dieux, puis revint à Mitigny et entreprit de soigner les gens. Au moment où je fis sa connaissance, elle était un devin puissant et renommé. C'était l'histoire de Julia, une femme exceptionnelle, de vin dans l'Afrique orientale, au Mozambique en particulier, dans la tribu Ryongas. Et ce portrait est tiré du livre « La religion par les femmes », écrit par Nancy Awafok et Rita Magross, écrit plutôt... tous ces écrits sont réunis par ces deux femmes, puisque le portrait, lui, de Julia, a été réalisé par Mata Binford, une Américaine qui aussi fait l'étude des religions. Alors, dans environ 6 semaines, eh bien, je vous lirai un nouveau portrait. Aujourd'hui, Remue-Ménage, c'est terminé et je vous rappelle notre rendez-vous la semaine prochaine.